Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de textes tirés des médias suivants. Reflet, La Voix de l'Est, La Tribune. Au programme, enjeux actuels relatifs à l'inclusion et à l'exclusion sociale des aînés au Québec. Forte mobilisation pour un centre communautaire à Sutton. Gérer la santé en s'appuyant sur la science. Et l'image des gens âgés dans la publicité. Bonne écoute.
Enjeu actuel relatif à l'inclusion et à l'exclusion sociale des aînés au Québec. Un texte de Bernadette Dallaire, paru en mars 2023 dans Reflet. Il est maintenant courant dans les discours publics et organisationnels d'évoquer le triptyque Équité, Diversité, Inclusion, ou EDI, désormais priorisé. On parle alors de pratique inclusive et même de société inclusive qu'il faut impérativement mettre en œuvre afin que divers groupes ou catégories de personnes, historiquement discriminées ou minoritaires, soient traitées équitablement, respectées dans leurs différences et incluses dans la société. Parmi les vecteurs d'exclusion sociale communément relevés, outre l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'ethnie, la culture, la religion, le handicap et autres, il y a l'âge. Mais pas n'importe lequel. Il existe assurément des stéréotypes et des préjugés qui concernent les jeunes, mais c'est surtout des aînés qu'il est question lorsqu'on parle de discrimination ou d'exclusion sociale fondée sur cette dimension. Si on peut arguer que les aînés ont historiquement fait l'objet de discrimination, soit depuis l'avènement des sociétés occidentales industriellement avancées, l'idée qu'ils soient minoritaires tient moins la route, surtout à la lumière des changements démographiques actuels qui se traduisent par une augmentation constante de la proportion d'aînés dans nos populations. Afin de résoudre cet apparent paradoxe, on souligne de plus en plus le fait que la catégorie des aînés n'est pas homogène, qu'il y existe une diversité sur les plans de l'identité de genre, de l'orientation sexuelle, de l'appartenance culturelle ou raciale, de l'origine, etc. Selon ce raisonnement qui intègre la notion d'intersectionnalité, soit la conjonction de différents facteurs de différenciation sociale associés à diverses formes de défavorisation, l'âgisme ne serait qu'un des vecteurs composant les matrices d'oppression qui marquent l'existence et le développement tout au long de la vie, dont l'âge avancé. Cette posture d'analyse permet d'avancer que tout en n'étant pas un groupe minoritaire, les aînés font néanmoins l'objet d'une exclusion sociale ou d'une discrimination fondée également sur ces différents autres paramètres. Cela étant dit, de tels raisonnements ne risquent-ils pas de faire perdre de vue les enjeux concernant le phénomène de l'âgisme lui-même et, en amont, les réalités propres au vieillissement? Oui, comme le reste de la population québécoise, le groupe des aînés d'ici présente une diversité croissante. Oui, il faut tenir compte des multiples expériences et réalités liées à cette diversité, mais il importe aussi, en même temps, de garder à l'esprit les réalités communes des aînés. Pensons ici, notamment, à l'isolement que vivent plusieurs, à la précarité financière croissante, aux difficultés du vivre chez soi, dans l'autonomie et la dignité, à la diminution du nombre de résidences adaptées aux besoins des aînés semi-autonomes ou en perte d'autonomie, aux lacunes dans les soins et les services, etc. Pensons également aux initiatives, ressources, organisations solidarité naturelle et mobilisation créées par et pour les personnes aînées. En somme, les enjeux de l'inclusion sociale des aînés du Québec actuel comprennent entre autres la prise en compte simultanée de la diversité croissante et des particularités et situations communes liées au vieillissement, ainsi que la manière d'y répondre adéquatement. C'est le défi qui nous est lancé. Je suis convaincu que nous sommes capables de le relever. C'était « Enjeux actuels relatifs à l'inclusion et à l'exclusion sociale des aînés au Québec », un texte de Bernadette Dallaire, paru en mars 2023 dans Reflet.
Forte mobilisation pour un centre communautaire à Sutton. Un texte d'opinion de Liane Bruno, paru le 28 novembre 2022 dans La Voix de l'Est. En réponse au processus de consultation citoyenne Rêvons Sutton, qui vise l'aménagement de son noyau villageois et face au futur incertain du centre John Sleet, une forte vague de soutien émerge pour un centre communautaire à Sutton. En effet, un groupe de travail a été formé et plus d'une vingtaine d'organismes locaux ont signé et fait parvenir une lettre à l'ensemble du conseil municipal, revendiquant ainsi la nécessité d'un centre communautaire à Sutton. Parallèlement, un nouveau groupe Facebook pour un centre communautaire à Sutton voit le jour et en quelques semaines seulement atteint plus de 230 membres. Parmi les 23 signataires de la lettre déposée, comptent des organismes œuvrant dans différents domaines, mais ayant tous de fortes valeurs communautaires. Jardin d'enfants, Maison des jeunes Le Spot, CAB Sutton, Coop Gym Santé Sutton, FADOC Les Deux Monts, Bibliothèque Sutton Library, Solidarité Environnement Sutton, Soccer Sutton, Sutton Youth Softball, Galerie Art Plus, Musée des communications et d'histoire de Sutton, Les Arts à la montagne, Sutton Jazz, Corde à vent, Ballet Jazz Sutton, Sutton en blues, Société d'histoire Héritage Sutton, Légion royale canadienne de Sutton, D'art et de rêve, Ballet Théâtre Sutton, Art Sutton, Festival de violon traditionnel Sutton et Parc d'environnement naturel de Sutton, PENS. Ralliés autour d'un message commun, ces groupes souhaitent que leur missive soit entendue par la municipalité. Concrètement, les organismes réclament un futur centre communautaire qui figure de façon centrale dans le développement du noyau villageois, un engagement financier de la ville dans le budget 2023 pour l'étude du dossier centre communautaire de Sutton, un processus d'idéation dans lequel nous pourrons être collectivement partie prenante plutôt qu'uniquement consultés dans le cadre de rencontres individuelles sur une plateforme web ou par sondage. Un engagement clair envers les organismes du centre John Sleet qui doivent se relocaliser à court et moyen terme afin qu'ils puissent continuer de dispenser sans interruption les services offerts à la communauté. Bon nombre d'organismes signataires croit à la création de ce centre communautaire comme étant la meilleure solution à long terme pour assurer la pérennité et l'essor des organismes et de meilleurs services à l'ensemble de la communauté. La création d'espaces multifonctionnels efficaces et accessibles permettra d'optimiser leurs ressources financières et humaines, de côtoyer quotidiennement leurs concitoyens et concitoyennes et de faire rayonner leurs actions. Selon Liane Bruno, présidente de la coop Gym Santé Sutton, il est possible de répondre aux besoins urgents d'un centre communautaire à Sutton avec la participation financière de la ville, des gouvernements provincial et fédéral et de notre communauté. Et nous sommes tous prêts à mettre la main à la pâte. En vue du sondage citoyen prévu par la ville de Sutton le 30 novembre 2022, le groupe de travail se dit préoccupé. Il invite les citoyens à rejoindre le mouvement en faveur d'un centre communautaire en participant au sondage et en rejoignant le groupe Facebook pour un centre communautaire à Sutton. L'option d'un centre communautaire centralisé devra être présentée de façon impartiale dans le sondage de la ville afin de permettre à la population et aux organismes de se prononcer, affirme Lisa Baum, coprésidente du Jardin d'enfants. Enfin, Mme Bruno souhaite que cette démarche permette à l'ensemble du Conseil de participer pleinement à l'avancement du projet pour qu'un centre communautaire à Sutton soit plus qu'un rêve. C'était « Forte mobilisation pour un centre communautaire à Sutton », un texte d'opinion de Liane Bruno, paru le 28 novembre 2022 dans La Voix de l'Est.
Gérer la santé en s'appuyant sur la science. Une chronique de Régent Hébert parue le 4 juillet 2022 dans La Tribune. Que diriez-vous d'un médecin qui pratique sans se soucier de la science? D'un chirurgien ou d'un radiologiste qui prend des décisions sans se baser sur des données et des preuves scientifiques? Ce serait bien sûr inacceptable, voire dangereux. Pourtant, les réformes du réseau de la santé et des services sociaux ont été menées au cours des deux dernières décennies sans s'appuyer sur des bases rigoureuses établies par la recherche sur les services de santé. Rien d'étonnant alors de constater l'échec de ces réformes et ses conséquences néfastes sur l'accès à des services de qualité. La médecine s'appuie maintenant de plus en plus sur des données probantes obtenu à la suite de nombreuses études scientifiques menées de façon rigoureuse à travers le monde. D'abord, avant d'être financées, ces études font l'objet d'une évaluation indépendante par les pairs, les collègues chercheurs experts du même domaine, afin de s'assurer de la rigueur du projet. Une évaluation éthique minutieuse, voire parfois tatillonne, assure la sécurité et la probité de l'étude projetée avant de recruter des participants. L'expérimentation est ensuite menée en ayant soin d'éviter tout biais pouvant fausser les résultats. Puis, une nouvelle évaluation par les pairs survient lors de la publication des résultats. Comme la preuve scientifique ne peut s'appuyer sur une seule étude concluante, l'expérimentation doit être répétée par d'autres chercheurs sur d'autres populations pour confirmer les conclusions. Une analyse de plusieurs études, une méta-analyse ou une revue systématique permet de combiner les différentes expérimentations pour obtenir une preuve scientifique solide. Finalement, des comités d'experts traduisent ces preuves en recommandations ou guides de pratique clinique. C'est ce processus qui est à l'origine de l'utilisation des tests diagnostiques ou des traitements par le médecin. C'est ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, ou la médecine basée sur des preuves. Il existe tout un champ de recherche aussi rigoureux et systématique pour étudier l'organisation et la gestion des services de santé. Comme on s'adresse souvent à des populations et des systèmes, les méthodes de recherche sont différentes, mais la même rigueur y est appliquée, de la conception de l'étude jusqu'à sa publication et à l'examen combiné des expérimentations semblables pour obtenir une preuve solide. Cette science de l'administration de la santé est enseignée dans les universités. On y mène des travaux, financés par les organismes nationaux et internationaux de subvention, qui sont publiés dans des revues scientifiques dédiées. Les gestionnaires et dirigeants de notre réseau ont souvent été formés dans les programmes de ces universités. On y enseigne comment appuyer ses décisions et orientations sur des données probantes. C'est ce qu'on appelle l'Evidence-Informed Decision Making, ou les décisions éclairées par les données probantes. Comme le médecin, tout gestionnaire ou dirigeant devrait toujours baser ses décisions sur des preuves scientifiques. Les résultats d'une étude sur un médicament ou un test diagnostique peuvent être facilement transposés et appliqués à d'autres populations. Il n'en va pas de même pour la recherche sur les services de santé, où le contexte et la population visée peuvent être déterminants sur les résultats d'une intervention. C'est pourquoi il faut être plus prudent avant d'appliquer une intervention, pourtant efficace à une autre population dans un autre contexte. C'est ce qui explique qu'on parle davantage de décisions éclairées par les données probantes et non basées sur des données probantes comme en médecine. Il est désolant de constater que les réformes majeures des 20 dernières années n'ont pas été éclairées par des données probantes. Auparavant, une réforme était souvent précédée par un examen rigoureux au moyen d'une commission d'enquête ou d'un groupe de travail. Ainsi, les recommandations des commissions Castonguay, Rochon et Claire ont toutes été appuyées sur un examen rigoureux et exhaustif de la littérature scientifique pertinente. Il n'en fut pas de même lors des réformes Couillard en 2003 et Barrette en 2015. Des réformes majeures, concoctées par des ministres médecins qui n'ont pas appliqué la même rigueur scientifique à transformer le système de santé que celle qu'ils ont apprise et appliquée pour traiter les malades. La commission parlementaire chargée d'examiner la réforme Barrette a pourtant reçu des témoignages de plusieurs scientifiques venus démontrer que cette réforme n'aurait pas les impacts anticipés à la lumière des connaissances scientifiques. On les a ignorés avec le résultat que l'on connaît. On a préféré se baser sur des idées alléchantes, mais non éprouvées. Dans ce domaine, le cimetière scientifique des bonnes idées est vaste et, comme chercheur en ce domaine, j'y ai souvent contribué. Un exemple. Je souhaitais démontrer que des visites préventives par une infirmière formée auprès de personnes âgées à risque pouvaient permettre de détecter et d'intervenir précocement pour prévenir la perte d'autonomie. L'expérimentation que nous avons menée n'a pas démontré d'impact significatif d'un tel programme. Ce résultat a par la suite été reproduit dans d'autres pays avec les mêmes résultats. Ce qui avait l'apparence d'une bonne stratégie s'est donc avéré un mirage. Pourtant, ce genre de programme continue malgré tout d'être implanté dans plusieurs régions du monde avec des investissements en ressources humaines et financières considérables. On ne retrouve pas au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et dans les établissements de santé une culture de décision éclairée par des données probantes. Et pourtant, dans notre système public universel, on en a des données, mais pour toutes sortes de raisons, on ne les utilise pas. Il n'y a plus d'équipe solide dédiée à l'évaluation et au développement au ministère et dans les établissements. Comment une entreprise avec un budget de plusieurs dizaines de milliards de dollars peut-elle se développer et améliorer ses services sans un secteur de recherche et développement? La R&D, recherche et développement, comme on l'appelle dans le secteur privé, est une condition essentielle à la survie d'une organisation et à son adaptation constante aux besoins des clients ou des usagers. Dans les établissements, on applique bien souvent des méthodes et programmes à la mode, prônés par des consultants rémunérés grassement. La fameuse méthode Lean ou Toyota en est un bon exemple. Bien qu'implantée largement dans le réseau à grands frais, les preuves scientifiques de son efficacité en santé sont plutôt faibles. Lorsque de nouveaux services, programmes ou politiques sont implantés, il n'y a aucun souci d'évaluer leur effet autrement qu'en utilisant quelques indicateurs, liés beaucoup plus au processus. Exemple, nombre de services offerts, temps d'attente, qu'au résultat. Exemple, nombre de vies sauvées, amélioration de l'état de santé, satisfaction des patients. C'est d'ailleurs le jugement porté par le vérificateur général et le commissaire à la santé et au bien-être, CSBE, lors de leur récent rapport. Les quelques études scientifiques sur la réforme de 2003 et certains programmes gouvernementaux, groupes de médecine de famille, guichets d'accès, par exemple, sont plutôt réalisés par des chercheurs universitaires avec un financement indépendant. Les effets désastreux des dernières réformes devrait nous alerter quant à la nécessité d'appuyer des décisions de gestion ou de réforme sur des données probantes. Toute nouvelle politique, programme ou service devrait obligatoirement faire l'objet d'une évaluation rigoureuse quant à sa mise en œuvre et à son impact sur la santé de la population. Nous ne pouvons plus diriger et gérer un système de santé sur la base de lubies colportées par des gourous mal avisés. La science de l'administration des services de santé existe. Il faut en profiter pour utiliser judicieusement les ressources limitées de l'État au plus grand bénéfice de la population. C'était « Gérer la santé en s'appuyant sur la science », une chronique de Régent Hébert parue le 4 juillet 2022 dans La Tribune. L'image des gens âgés dans la publicité. Une révolution s'impose. Un texte de Luc Dupont, paru en mars 2023 dans Reflet. Les gens de 50 ans et plus sont de grands consommateurs de spiritueux, de vins, d'aliments santé, de forfaits de voyage et de produits de beauté. Ils achètent la moitié des voitures de luxe et le quart de tous les jouets pour enfants. Et pourtant, malheureusement, la recherche indique que la publicité entretient généralement une vision péjorative des aînés. La personne âgée est un cliché. Le discours publicitaire lié au vieillissement est négatif. Trop souvent, l'image de la personne âgée dans la publicité fait peur. Elle évoque symboliquement la solitude. Les gens âgés sont des caricatures, des gens sans importance et sans individualité. Les aînés sont faibles, lents, passifs, prudents, en mauvaise santé, accrochés au passé et réfractaires au changement. Quand on voit un visage de face dans la publicité, on montre une personne au visage vieilli, aux cheveux gris ou à la silhouette déformée. Dans sa présentation de la vieillesse, la publicité répète « Faites attention aux poils, aux rides et aux kilos. Pour plaire, être beau, il faut en effet être jeune et mince. » C'est ce qui explique probablement pourquoi les images de jeunes personnes sont utilisées pour vendre des produits aux jeunes et aux plus vieux. Le discours publicitaire renvoie l'image d'une vieillesse difficile. D'ailleurs, les aînés sont associés systématiquement à certains types de produits. Annonces de maisons pour retraités, de condos, de produits financiers, d'articles et services de gérontologie, etc. Comment expliquer ce phénomène? On retrouve dans la publicité tout un univers de jeunesse, de beauté, d'abondance, de progrès, de santé, de richesse, de sexualité, de réussite et de bonheur. Or, ce refoulement social du corps vieux, nié avec véhémence par l'industrie de la publicité, contraste avec la popularité de la jeunesse comme catégorie sociale. Des chercheurs ont montré que la publicité qui met en scène des gens âgés regroupe en moyenne 4 acteurs, tandis que celle sans personnage âgé en montre en moyenne 2,5. Ces représentations publicitaires ont fini par constituer une sorte de mythologie moderne ou de discours circulant sur les aînés. Les images de l'aîné, telles que présentées dans la publicité, conduisent à un autre constat central du construit publicitaire. Les gens âgés occupent une place secondaire dans les images publicitaires. En 1980, la recherche indiquait qu'on retrouve 3 vieilles personnes pour 100 personnes dans la publicité. Plus récemment, les gens âgés de plus de 50 ans représentent autour de 15% des personnes de la publicité. La situation s'améliore lentement. Sans surprise, les consommateurs plus âgés se sentent ignorés par la publicité. La faible présence de gens plus âgés dans la publicité se confirme, quels que soient les publics visés ou le type de produit annoncé. Publicité touristique, chaînes d'hôtels, produits pharmaceutiques, campagnes de communication publique pour des hôpitaux, des collèges ou des universités. cette non-utilisation des personnes âgées dans la publicité doit être remise en question, d'autant plus que la démographie est à la mode. Il convient de remarquer que les consommateurs, surtout ceux de 50 à 60 ans, réagissent mal aux termes qui leur rappellent qu'ils ont vieilli, tels que « troisième âge », « gériatrie », « pouvoir gris », etc. Ils se perçoivent en général comme plus jeunes qu'ils ne le sont en réalité. Les gens de plus de 50 ans estiment que les gens âgés n'ont pas une visibilité publicitaire correspondant à leur importance démographique. Ils ont raison. Il est communément reconnu que les médias de masse exercent une influence formidable dans la socialisation extrafamiliale. Leur rôle est significatif parce qu'ils proposent des modèles symboliques visuels sur la façon de se comporter. Certains magazines destinés aux gens plus âgés ont d'ailleurs déjà commencé à rejeter la publicité mettant en scène des aînés dans des contextes négatifs. Une portion importante de gens âgés affirme en effet ne pas se reconnaître dans les images négatives entretenues par les médias. Rappelons que les 50 ans et plus représentaient 41% de la population totale du Québec en 2022. Les aînés désirent voir des personnes âgées en forme et énergiques dans la publicité. Pour cette raison, et dans son propre intérêt, la publicité est condamnée à mettre en scène des gens plus âgés et à éviter les clichés négatifs reliés à l'idée d'un vieillir misérabiliste, de sorte que le consommateur plus âgé puisse se voir dans la même situation que quelqu'un qu'il admire, qu'il souhaiterait être. C'est dans l'intérêt des annonceurs, des médias, des entreprises et de la société en général. C'était l'image des gens âgés dans la publicité, une révolution s'impose, un texte de Luc Dupont, paru en mars 2023 dans Reflet.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.misevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Gilbert Lepage à la lecture, Diane Métayer à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.